Le journal vous est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. 7 ans déjà, une révolution toujours inachevée en Tunisie. Le 7e anniversaire de la chute de Ben Ali arrive avec un regain de contestation sociale dans le pays. Ce sera le dossier principal de cette édition. La République tchèque regardera-t-elle vers Bruxelles ou plutôt vers Moscou? Enjeu du second tour de la présidentielle dans 2 semaines. Le premier tour hier a donné l'avantage au président sortant, le pro-russe Miloš Zeman. Mieux vaut tard que jamais dans le scandale du lait pour bébé contaminé. Lactalis rappelle désormais tous les produits issus de son usine mayonnaise, soit 12 millions de produits dans 83 pays. La question de la faisabilité d'un tel rappel reste posée. Dans ce journal également, avis de naissance d'un nouveau festival de cinéma, cinéma et droits de l'homme en l'occurrence à Toulouse, avec une actualité internationale qui donne une matière sans cesse renouvelée au 7e art. Les révolutions ne se font pas en un jour et celle qui a ébranlé la Tunisie il y a 7 ans n'est pas encore terminée. C'est en tout cas l'avis de ces dizaines de milliers de Tunisiens qui se mobilisent à nouveau depuis maintenant 1 semaine contre les mesures d'austérité qui sont imposées par un gouvernement toujours aussi corrompu, disent-ils. En ce 7e anniversaire aujourd'hui de la chute du président Ben Ali, l'avenue Bourguiba de Tunis devrait être noire de monde cet après-midi dans un climat particulièrement tendu, donc malgré les dernières concessions du gouvernement. Maureen Mercier.
C'est la hausse des prix et des impôts qui a été l'élément déclencheur. Début janvier, de jeunes militants associatifs et des syndicalistes étudiants lancent le mouvement Fesh Nestanehu, une expression tunisienne qui signifie « qu'est-ce qu'on attend pour réagir ?». Au début, il n'était qu'une quinzaine. Aujourd'hui, le collectif revendique près de 12 000 membres sur les réseaux sociaux, avec des relais dans tout le pays. Asrar Benjouira a 24 ans, cette fille de militaire est l'une des fondatrices du mouvement.
Nous sommes des jeunes étudiants et chômeurs. C'est un grand problème, les jeunes chômeurs, et aussi suite à ce loi de finances 2018, il va augmenter le taux de chômage, il va augmenter le taux de pauvreté. C'est pourquoi ce mouvement a grandi d'une manière rapide.
Asrar a été l'une des premières manifestantes arrêtées par la police pour avoir tagué des murs et distribué des tracts dans la rue.
Tous les membres fondateurs de ce mouvement, on a remarqué qu'une voiture qui nous suit chez nous, dans nos quartiers, ce sont des policiers et les voitures des policiers. Nos téléphones sont sous l'écoute. C'est un genre de pression pour qu'on arrête de sortir dans la rue pour ne faire peur. On ne va pas s'arrêter, on va continuer la révolution.
7 ans après la chute de la dictature, Asrar Benjouira refuse de fêter l'anniversaire d'une révolution qui n'a pas tenu toutes ses promesses.
Voilà, vous l'aurez compris, c'était un reportage de Yann Gallic à Tunis et non de Maureen Mercier. Mais nous nous arrêtons plus en détail à présent sur les causes de cette nouvelle fièvre contestataire en Tunisie. Les causes, on l'a entendu un petit peu, sont avant tout économiques. Les changements tardent trop à venir dans un pays qui peine à se relever de ces bouleversements politiques. C'est en tout cas l'analyse du spécialiste du Maghreb, Kader Abderrahim.
Il y a une instabilité pendant au moins 2 ans dans le pays, des grèves à répétition qui ont, dans un premier temps, fait considérablement baisser la production de phosphate, qui représentait les premières rentrées de devises pour la Tunisie. Et puis, il faut se souvenir, mais ça n'en est pas responsable, la Tunisie a aussi subi 2 attentats coup sur coup en 2015, contre le musée du Bardo à Tunis et puis à Sousse, où il y avait eu près de 60 morts. Donc les touristes avaient fui le pays. Le tourisme, c'est également le 3e ou 4e poste de rentrée de devises dans le pays. Donc voilà, tous ces éléments sont à prendre en considération. Je ne pense pas qu'on est à la veille d'une nouvelle révolution ou d'un chambardement aussi grand que celui qu'on a vécu en 2011, mais la Tunisie est en train de construire progressivement sa démocratie. La démocratie, c'est une pratique dont les Tunisiens n'ont pas encore totalement intégré et accepté cette pratique, ni dans la population, ni d'ailleurs dans les élites, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, notamment dans les rapports entre l'administration et les citoyens. Il y a un niveau de corruption, notamment, qui est très élevé, et c'est aussi cela que critiquent et que condamnent les manifestants.
Kader Abderrahim au micro de Nadine Epstein. Quelle riposte palestinienne à présent après la reconnaissance d'Israël comme capitale de Jérusalem, pardon, comme capitale d'Israël par Donald Trump. La question de cette riposte palestinienne sera au cœur aujourd'hui et demain d'une réunion du Conseil central de l'OLP, réunion à laquelle le Hamas avait été invité mais refuse de participer. Et cette décision complique encore la définition d'une position palestinienne claire et forte, alors que le Hamas et le Fatah, on le rappelle, sont censés respecter accepter un accord de réconciliation. En République tchèque, la campagne d'entre-deux-tours promet d'être tendue entre le président sortant Miloš Zeman et son rival Jiří Drahoš. Zeman, le populiste pro-russe et partisan d'un rapprochement avec la Chine, est sorti hier en tête du premier tour avec 40% des voix contre 27% pour Drahoš. L'universitaire tourné vers Bruxelles est porté par l'électorat des villes tchèques. Les précisions depuis Prague d'Alexis Rosenzweig.
Malgré l'écart important entre les deux hommes dans ce premier tour, les chances de l'emporter sont loin d'être nulles pour Jiří Drahoš, grâce notamment au report des voix d'autres candidats éliminés. Mais ce scientifique, assez consensuel, devra se montrer solide dans la campagne à venir. Une campagne déjà annoncée comme rude et déterminante pour ce pays d'Europe centrale et l'orientation de sa politique étrangère, avec un président sortant, le très clivant Miloš Zeman, réputé être davantage pro-russe et pro-chinois que pro-européen, contrairement à son challenger. La Tchéquie est en période de forte croissance économique, mais aussi d'instabilité gouvernementale, avec un premier ministre en difficulté, le milliardaire Andrej Babiš, qui n'a pas réussi à obtenir la confiance du Parlement et qui comptait bien sur le soutien de Miloš Zeman, son allié de circonstance. Avant le second tour, les deux hommes, Zeman et Babiš, chef d'État et chef de gouvernement, vont à n'en pas douter s'employer pendant les deux prochaines semaines à ce que le nouveau venu en politique, Jiří Drahoš, ne vienne pas perturber leur duo au sommet de l'État.
9h passées de 6 minutes sur France Culture. 83 pays concernés, plus de 12 millions de boîtes de lait en poudre à retirer de la vente. L'ampleur du scandale Lactalis, des laits pour bébés contaminés à la salmonelle, se précise donc avec cette troisième campagne de rappel qui concerne désormais tous les produits sortis de l'usine mayonnaise de Cran, d'où est partie la contamination bactérienne. On vise donc désormais le plus large possible pour éviter les manquements de ces derniers mois. C'est un reportage de Grégoire Lecalot pour France Culture.
Sur l'ordinateur d'Olivier Denona, pharmacien à Paris, la nouvelle consigne de rappel des produits Lactalis visés s'est affichée immédiatement.
On voit apparaître urgence alerte sanitaire, émanant en fait du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, qui nous informe que les produits infantiles et nutritionnels Lactalis font l'objet d'un rappel de l'obligation de retrait de tous les produits.
Est-ce que vous recevez aussi des alertes de Lactalis même ?
De Lactalis, non.
Le groupe laitier assure pourtant avoir préparé un affichage à apposer dans les pharmacies et les grandes surfaces. Il porte sur le rappel cette fois de tous les produits fabriqués dans l'unité de Cran touchée par l'infection, quelle que soit leur date de fabrication. Le précédent rappel ne courait que depuis février 2017. Mais pas sûr que les volumes supplémentaires collectés soient si importants, car les boîtes de lait sont vite consommées une fois produites. Virginie Rigour, pédiatre responsable du Lactarium de Paris.
Les enfants changent assez fréquemment de lait dans leur parcours avec leur croissance. Ensuite, le coût des boîtes de lait fait qu'il est peu probable que des parents fassent des stocks de lait. Et par ailleurs, dans les hôpitaux, il n'y a pas de stock de lait important qui se fait avec des commandes régulières qui sont effectuées.
Les marques concernées sont toujours les mêmes, essentiellement Picot, Milumel et Celia, exportées dans 83 pays. Liste complète sur le site internet de Lactalis, de même que le numéro vert qui permet de formuler une demande de remboursement.
On le rappelle, rien qu'en France, déjà 37 bébés ont été infectés par la salmonelle après avoir consommé des laits en poudre Lactalis. Et dans le journal du dimanche, aujourd'hui, le PDG du groupe Emmanuel Beignet promet que toutes les familles qui auront eu à subir un préjudice dans cette affaire seront indemnisées. Pour une fois, voilà une entente entre opérateurs de télécom qui ne se fait pas au détriment des usagers. Les quatre sociétés françaises qui détiennent des licences de téléphonie mobile annoncent qu'elles vont investir ensemble 3 milliards d'euros pour éliminer les zones blanches de notre territoire. Un effort particulier sera fourni autour des 30 000 km de lignes ferroviaires, TER compris, le tout, nous dit-on, sans aucun financement public. Et nous partons à présent dans l'agglomération toulousaine pour saluer la naissance d'un nouveau festival de cinéma. Un festival qui propose 11 films projetés dans une quinzaine de salles, et ce jusqu'au 25 janvier, avec un thème commun d'une actualité toujours renouvelée, les droits de l'homme. Ce festival, il est porté par 8 ONG, parmi lesquelles l'Association des Amis du Monde Diplomatique, dont fait partie Jean-Pierre Crémoux.
Malheureusement, si je puis dire, c'est que la problématique des droits de l'homme dans le monde, elle est très large. Vous avez bien sûr le problème du droit des femmes. Il y a le thème des migrants, bien sûr, qui va être traité. Alors, on a essayé d'avoir un film qui est plus léger. C'est aussi une fiction, en l'occurrence. C'est Bienvenue, c'est un film norvégien sur l'accueil de réfugiés en Norvège et leur intégration surtout. Vous avez le thème des pesticides, puisqu'on en a parlé aussi récemment avec tous les problèmes de la prolongation du glyphosate. Bon, on a le film qui est le vénérable W, hein, le fameux Bonze en Birmanie, qui a mené des campagnes contre les Rohingyas. Il y a à l'Ouest du Jourdain le film qui est sorti récemment aussi d'Amos Gitaï sur le problème de la Palestine. On est encore une fois dans l'actualité avec les décisions de Donald Trump concernant la reconnaissance de Jérusalem. C'est l'occasion aussi, à travers des films qui vont illustrer ces sujets-là, d'ouvrir un débat pour essayer de donner des éclairages avec des gens qui ne sont pas, je ne vais pas utiliser le terme d'expert parce que le mot n'est pas toujours le plus approprié, mais par le biais des associatifs comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières. C'est l'occasion de permettre cet échange avec un public, on espère, le plus large possible, bien sûr.
Des propos recueillis par Charlotte Barry. En ce qui concerne le temps de ce dimanche, c'est perturbé au sud avec des pluies dès ce matin, mais c'est plus dégagé sur la moitié nord du pays après dissipation des brumes matinales. Les températures ce matin frôlent le zéro sur le centre-est, mais oscillent entre 2 et 6 partout ailleurs. Cet après-midi, il fera 2 degrés à Strasbourg et au Havre, 5 à Lille, 8 à Paris, jusqu'à 11 autour de la Méditerranée.